Nos gens sont terriblement pauvres et...
C'est normal. Les pauvres, c'est fait pour être très pauvres et les riches, très riches.
Voilà. www.libradio.org. Libre Radio, la radio qui rétablit l'équilibre.
Voudriez-vous nous en dire un petit peu plus sur justement les choix de narration et puis voilà, de quelle manière est-ce que vous avez mis en scène cette bande dessinée, quels sont les quelques personnages, quelques figures comme ça tutélaires, comment est-ce que vous avez matérialisé certaines personnes pour dire ce que vous dites?
Moi, j'avais envie de raconter cette histoire-là, mais de pas être non plus dans le pur documentaire, très contraint par la réalité des personnages qu'on allait mettre en scène. Alors évidemment, il y a l'histoire de la lutte, l'histoire de la radio, ça, elle est telle qu'elle a été. Les extraits d'émissions, les moments de radio sont retravaillés évidemment pour s'adapter à la bande dessinée, mais on est quand même. L'idée, c'était quand même de replonger les gens dans le récit comme s'ils y étaient, quoi, dans ces émissions-là. Mais après, voilà, moi, l'idée d'avoir cette famille dont parlait Vincent à l'instant, pour rentrer dans le récit, ça donnait un angle, quoi, qui était, qui nous était propre, qui permettait d'être dans une proposition un peu différente. Et puis voilà, ça permet aussi à l'écriture une certaine souplesse, et puis ça correspondait aussi à une envie, parce que c'est vrai qu'on sortait de l'histoire du rapport Braza, qui était lui un projet très, très strict, quoi, sur la justesse historique, quoi, parce qu'on est, on traitait de faits historiques qui avaient été assez peu traités, et donc on se devait d'être très précis, on pouvait pas faire bien n'importe quoi par ça, enfin voilà, il fallait vraiment être c'était très 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 un peu trop carré, quoi. Mmh. Et du coup, cette liberté là dans le récit, bah, qu'apporte cette famille de fiction, elle permet aussi de faire passer des choses qu'on pourrait pas faire passer par les personnages documentaires, entre guillemets, quoi. C'est-à-dire un certain point de vue sur les événements, cette idée d'évolution des personnages par la radio, cette idée aussi de rupture, de conflit de génération, etc., etc. Cette famille-là nous raconte un moment charnière d'histoire, quoi, un moment de bascule. Et ce que cette histoire-là a comme influence sur les gens, quoi.
Et puis de façonner des personnages à sa guise, ça permet également, j'imagine, de synthétiser le sel de plusieurs personnages différents dans la réalité.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire, bah, comme vous dites là, si je prends le personnage du père de Camille qui s'appelle Eugène, là, qui est donc la figure un peu typique entre guillemets du sidérurgiste syndiqué. Communiste, très un peu sectaire comme ça, on va dire, qui est du coup pas du tout très ouvert à l'idée que LCA puisse donner la parole à d'autres gens que ceux du syndicat. Bon, qui imagine pas non plus autre chose que la sidérurgie, que l'usine, qui est dans une espèce de lignée comme ça, on va dire. Il fait, voilà, son père travaillait à l'usine, lui-même il travaille, son fils aussi. L'idée, il y a une espèce de, il est pérennisé un petit peu ce truc-là. Et qui en fait n'arrive pas forcément à voir ce qu'il peut y avoir d'autre, et qui comprend assez mal aussi ce qui est en train de se passer dans ce monde-là qui s'effondre autour de lui, quoi. Et ce personnage-là, il est composé de à la fois de personnes que moi j'ai pu rencontrer dans, voilà, de par mes expériences précédentes, mais aussi de personnages réels qu'on peut retrouver dans des documentaires ou dans les archives de Lorraine Cœur d'Acier, comme un Marcel Donati ou un Leonard Rizzou, qui étaient des figures assez imposantes de l'histoire de la radio, quoi.
Ouais. Ouais. Et des personnes qui ont évolué tout au long de l'évolution de la radio. Effectivement, dans le film, il y a des anecdotes concernant Rizzou, justement, dont on dit que c'était quelqu'un qui était assez, comment dire, par rapport aussi aux populations étrangères, notamment aux Arabes, voilà, un petit peu sceptique, et qui a fini par être vraiment un ami, et plus que ça, un allié.
Oui, bien sûr. Ouais. C'est une aventure humaine. Et pour le coup, il y a pas mal de gens qui ont, dans le parcours, les idées ont changé avec cette radio. Ouais. Et on le sent, hein, quand on discute avec les gars ici sur l'Ouïe, on sent que il y a, voilà, ils ont discuté avec tout le monde. Ils sont, alors souvent c'est des grandes gueules, souvent ils affirment quelque chose assez fort, mais ils acceptent souvent aussi le dialogue. Et ce moment où finalement où la parole a été libérée les a souvent un peu remis en cause. Et ils sont laissés faire parfois et donc ils sont revenus sur l'opposition. Il y a des choses qui ont été abordées dans cette radio qui avaient jamais été abordées. Alors entre autres, moi ce qui me touche pas mal c'est les femmes. La manière dont elles ont pris le micro, où elles ont commencé à s'exprimer, et on sent au départ que c'est pas forcément quelque chose qu'elles ont l'habitude de faire, mais elles le font. Il y a des choses qui se disent. Quand on écoute les archives radio et qu'on écoute aussi quand on discute avec les gens, il y a plein de trucs assez chouettes humainement qui sont passés. Quoi.
Ouais. Alors revenons à la radio. J'aurais voulu que vous nous disiez, selon vous, quel était son impact réel sur le quotidien, sur les gens qui l'écoutaient, et également sur leurs aspirations, sur leur lutte sociale. Est-ce que c'était vraiment l'allié de tous les jours, le moment de réconfort où on se dit, on imagine que ça peut être qu'une journée à l'usine, dans la sidérurgie, avec des chaleurs étouffantes et puis une fatigue physique terrible à la fin. Et puis on rentre et puis on écoute cette radio-là. Voilà. Quelle était sa place dans le quotidien des ouvrières et des ouvriers et son impact sur les aspirations de ces mêmes ouvrières et des ouvriers?
Il était sûrement grand, mais là, pour le coup, même si j'ai discuté avec pas mal de gens, même si je me rends compte de l'importance que ça a eu quotidiennement et dans la libération de la parole, c'est peut-être quelque chose qu'il faudrait poser aux gens directement. Oui. C'est un peu compliqué de parler pour eux, mais évidemment, il y a beaucoup de gens dans l'Ouï, dans le bassin, qui avaient donc l'oreille collée au poste, qui attendaient cette parole, et j'imagine que beaucoup de gens écoutaient une bonne partie de la journée tout ce qui se disait sur le REM Cœur d'Acier. Après, j'en sais rien, il faudrait probablement aller voir un tout petit peu et discuter avec tout.
C'est ça, absolument. Je demandais ça parce que j'aimerais qu'on parle de la question du brouillage. Ouais. S'il y avait brouillage, c'est que l'importance était patente, était prégnante. Alors, j'aimerais qu'on parle de ce brouillage. Comment est-ce que ça s'est passé? Et notamment, si vous vouliez bien revenir sur l'affaire des hélicoptères, qui ont été, si j'ai bien compris, chassés, mais vous allez nous dire comment. Il y a également des avions qui sont, au bout du compte, devenus obsolètes d'une certaine manière, en tout cas inopérants. Alors, le brouillage, pourquoi, comment?
Ben, le brouillage, c'est parce que c'était la façon de perturber les émissions d'une radio que le pouvoir ne pouvait pas fermer autrement, quoi, puisqu'il y avait un rapport de force qui était extrêmement favorable à la population de Longwy, qui empêchait toute intervention de force pour faire cesser la radio. Donc les autorités ont essayé de perturber les émissions comme ils pouvaient. Donc il y a eu ces brouillages effectivement avec des hélicoptères qui, je sais pas trop comment techniquement ça se passait, mais bon, l'idée c'était que voilà, ça envoyait la friture sur la ligne, quoi. Enfin voilà, faudrait demander à je sais pas qui, à la technique. Et puis voilà, et puis après les gens essaient de trouver des petites combines, comme le fait de brancher les antennes sur je ne sais quel appareil électroménager qui en faisant masse enlevait le brouillage, vous permettait de capter un peu mieux, etc., etc. Et puis il y a eu une affaire où les brouillages ont été un peu plus loin, où ça a complètement c'était pas possible de les contourner. Du coup, Marcel Triet et Jacques Dupont ont décidé d'arrêter les émissions, et la réaction de la population de Longwy à l'époque a été immédiatement de protester, de monter à l'antenne relais d'où partaient les brouillages, et il y a eu une nuit d'affrontements et d'émeutes dans Longwy
Oui, c'est aussi un moment chaud dans le Louis, c'est effectivement ces luttes au bois de chat. En fait, ils ont investi avec plusieurs quarts de CRS l'antenne qui diffuse sur toute la vallée, donc qui est sur un petit sommet, le bois de chat. Et pour le coup, il y a beaucoup de monde qui sont montés là-haut et ça a été plutôt chaud, quoi. Il y a eu une grosse nuit où ils se sont affrontés. Alors il y a eu des blessés, il n'y a pas eu de mort heureusement, mais voilà, quoi, ça a bien tapé, c'est clair.
Mais ça donne la mesure de l'importance que la radio avait prise pour ces personnes.
Ah évidemment. Voilà. Là pour le coup, il y a eu qu'un mot à dire et les gens sont montés là-haut et ils se sont retrouvés face à des CRS, quoi. Donc, voilà, quoi.
Cette antenne, c'est la grosse Bertha, c'est ça?
Non, c'est l'antenne du bois de chat.
Ah, pardon. Excuse-moi. La grosse Bertha.
La grosse Bertha, je connais. Ouais.
Bon, on ne parle pas de ça. Ça ne vous dit rien? Parce que
ça
ne
me dit rien.
D'accord. En fait, c'est dans la bouche de Marcel Tria, donc, qui raconte le moment où les hélicos ont même été chassés à coups de fusil. Eh bien, il parle de la grosse Bertha qui, si j'ai bien compris, mais j'ai peut-être aussi mal compris, qui est une antenne relais justement qui touchait tout le bassin et dont...
Peut-être, je connais pas l'histoire pour le coup.
Ok, hein. Bon, c'est pas grave. Voilà. Alors, bon, bah, en tout cas, voilà, ça donne bien la mesure de l'importance que la radio avait prise et de la place qu'elle avait prise dans la vie des personnes alentour. Vous l'avez ébauché, j'aimerais vous entendre autour de la place des femmes, parce qu'effectivement... Là aussi, d'une certaine manière, et Marcel Tria et Jacques Dupont, d'une certaine manière, ont été débordés. Est-ce qu'on peut le dire ?
Ils avaient envie de ça.
Oui,
hein,
oui, bien sûr.
Évidemment, mais c'est clair que les femmes qui, au départ, sont venues plutôt pour, je sais pas, peut-être les aider. Alors oui, elles ont commencé par plutôt aider à la technique. A priori, donc elles n'avaient pas très envie de parler, mais en fait, étant à la technique, elles étaient dans les studios, elles se sont rapprochées des micros, puis à un moment où elles ont pris les micros et elles ont eu des émissions à elles, et ces émissions sont assez incroyables à entendre parce que finalement, elles parlent d'elles-mêmes, elles parlent de sujets dont elles parlaient peut-être seulement entre femmes jusqu'ici, mais là elles vont parler à tout le monde de leurs problèmes au niveau des accouchements ici à Mont-Saint-Martin, les choses se passaient à l'ancienne, c'était compliqué, il y avait peu d'écoute sur la douleur par exemple. Elles parlent aussi de leurs conditions de vie. En fait, elles sont en HLM à ce moment-là. Donc, il y a la promiscuité, le fait d'entendre tous les voisins. Donc, elles parlent de beaucoup de choses, et on imagine bien que c'est quelque chose que finalement elles évoquaient pas forcément, même dans le couple. Donc voilà. C'est une parole qui est plutôt assez précieuse et que j'ai aimé découvrir dans les fichiers audio.
Mais qu'est-ce qu'ils disaient dans cette radio ? Quels étaient les sujets ?
On y vient, les différentes rubriques.
Ouais. Ah, écoutez les gars, il y a des centaines d'heures d'archives. écoutez-les, écoutez l'album.
Oui, non, mais pour compléter ce que dit Pierre, effectivement, il y a eu assez rapidement... les femmes ont pris leur place, même s'il n'y a pas eu une émission spécifique, elles étaient là tout le temps, si j'ai bien compris. Et il y a également des personnes immigrées, donc il y a même des émissions qui se font partiellement en arabe, si j'ai bien compris.
Oui, il y a aussi ça, effectivement, il y a une émission, mais il n'y avait pas que ça, il y en avait bien d'autres. Il y a une émission qui s'appelle La parole aux immigrés, qui était donc une émission en français et en arabe et qui était animée par des gens. Alors, il y avait Benasser Azaoui, il y avait Mariama, je sais plus son nom, mais voilà. Et au début, il était encadré par Jacques Dupont et Marcel, après, ils voulaient de leur propre aile. C'est un petit peu sur ce schéma-là qui était fait bien souvent les émissions qui étaient créées. Hein. Un petit peu à l'initiative aussi des gens de l'ONU, quoi. C'est-à-dire que les journalistes laissaient bien volontiers l'antenne à tout le monde et chacun faisait un petit peu son, Et
Et toujours pour aller dans le sens de la question de Pierre, on peut dire également que la musique avait sa place, notamment du jazz, et certainement pas que, parce que je sais qu'il y avait des disques hein, que les gens donnaient pour qu'il y ait une base de données sonore. Et j'aurais voulu peut-être que vous nous disiez quelques mots d'une chanson qui est presque devenue un hymne, c'est Le Chiffon Rouge.
Oui, alors ça, c'est une chanson de Michel Fugain et qui s'est imposée comme ça, comme une espèce d'hymne de l'oreille de cœur d'acier, parce que les gens demandaient à l'écouter. Et voilà, c'est devenu un petit peu la chanson qui est l'emblème de cette histoire de lutte et de cette radio.
Ouais. Je fais juste une mini-pause. Salut Michel, bienvenue. On termine.
Salut.
Axel est là également. Moi, c'est William, c'est la petite image là. On termine vite cette interview. Et puis, mais surtout, bougez pas. Par contre, j'ai un gros souffle dans mon retour. Je sais pas d'où il vient. Est-ce que les personnes qui parlent pas pourraient couper leur micro, s'il vous plaît, comme ça? Parce que je sais pas d'où ça vient. Ouais. Donc, je peux pas dire qui ou quoi, si ça se trouve c'est moi, mais je crois pas parce qu'au début il y avait pas, parce que j'ai un grand souffle, puis c'est vrai que ce sera moins sympa pour les gens qui vont écouter. Là je l'ai toujours, donc voilà, je l'ai plus. Alors peut-être Axel que c'était toi. Bon, on s'en fiche, on continue hein, comme ça on perd pas de temps. Voilà, là c'est bien, là il y a plus de souffle. Je reprends juste cette dernière question parce qu'elle était justement, il y a beaucoup de souffle concernant le Chiffon Rouge. Donc effectivement, c'est devenu une chanson un petit peu hymne qui s'est installée un petit peu, voilà, de lui-même. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui vous a particulièrement touché, ou bon bah ça n'est qu'une des péripéties liées à Lorraine Cœur d'Acier?
Il est beau ce team, hein, évidemment.
Ouais,
Donc après, dès que tu commences à brancher les gens au café, en fait, ils se mettent en arrière, ils commencent à la chanter avec l'œil humide. Donc c'est très mignon. Voilà, c'est un hymne. C'est joli. Il y a 2 ans, Fugain est venu en fait hein, la rechanter, et pour le coup c'était très impressionnant parce que sur la place d'Arche tout le monde s'est mis à l'entonner. Alors évidemment c'était plutôt des gens qui avaient connu Lorraine Cœur d'Acier et pour qui ça parlait, mais il y avait quelque chose qui était assez chouette sur la place. Donc voilà. C'est une très jolie chanson et surtout c'est un symbole, donc c'est comme ça que je le prends et c'est comme ça qu'il faut le prendre, je suppose. Voilà. Après, ça a peut-être dépassé même un peu Michel Fugain, parce que alors je me souviens plus complètement de l'histoire, mais a priori, voilà, il n'avait pas pensé la chanson comme un hymne solidaire ou quelque chose qui allait défendre la cause ouvrière plus que ça. Donc, je pense que ça l'a un petit peu même dépassé à l'époque. Même s'il assume bien maintenant, probablement.
Lorraine Cœur d'Acier, histoire d'une radio pirate, libre et populaire 1979-1981. Dessin Vincent Bailly et récit Tristan Thil, aux éditions Futuropolis. Le site internet www.futuropolis.fr. Je vous remercie beaucoup d'avoir consacré tout ce temps. On arrive doucement au terme de cet entretien. Pierre réfléchit à une dernière question et puis moi j'en aurai une pour vous. C'est une en deux volets. J'aime bien les questions à deux volets. Selon vous, s'il y en a, quels sont les héritières et les héritiers de Lorraine Cœur d'Acier? Et vous, comme personne, en quoi, si c'est le cas, cela a transformé ou en tout cas nourri votre vie et puis peut-être justement enflammé vos aspirations et vos existences?
La petite sœur de Lorraine Cœur d'Acier ici sur Longwy, c'est la radio Aria, qui est donc une radio qui se fait depuis, alors je vais pas dire une bêtise, mais ça fait un petit moment qu'elle existe, et pour le coup j'ai un vrai plaisir à aller chez eux, causer un tout petit peu de la BD ou d'autres choses, et une vraie satisfaction à savoir que le flambeau a été repris ensuite par cette radio associative. Après, Lorraine Cœur d'Acier, comme le disait Tristan, c'est l'une des premières radios pirates. Elle est au départ de toutes les futures radios libres. En plus, elle avait un poil plus de moyens, donc elle a eu un poil plus d'écho. Donc évidemment, elle nourrit toutes les radios, toute la radio moderne, quoi. on est plus sur l'ORTF et la voix de son maître, et on est sur une liberté de parole, une liberté de ton qu'on a encore maintenant, enfin j'espère, sur pas mal de radios. Donc évidemment, Lorraine Cœur d'Acier est importante pour toute la radio moderne.
Est-ce que vous imaginez, maintenant que la BD est parue, pourquoi pas faire une tournée pour aller la présenter, puis aller répondre aux nombreuses questions qui pourraient surgir dans les quatre coins de l'Hexagone et également à l'étranger. Je pense notamment à la Suisse, pourquoi pas Saint-Imier, hein, Saint-Imier qui a une librairie, et Genève également. Voilà. Est-ce que ça, c'est un questionnement qui vous habite? Une tournée, voilà, une tournée avec la BD.
Bah, je dois te dire que niveau tournée, au niveau des radios, là, ça commence à être pas mal. Parce que j'ai l'impression que ça fait quand même une paire de fois qu'on raconte l'histoire.
Ah ouais. On a une interview tous les deux jours, en fait.
Ah, mais ouais, c'est super.
Donc voilà, on est là, je pense qu'on commence à être bien. Après, oui, pourquoi pas. Moi, je suis toujours intéressé. Je trouve ça toujours assez chouette, les rencontres et les dédicaces. Et c'est toujours des moments... assez sympa où on rencontre les gens. Moi, pour l'instant, bon, avec l'histoire de confinement, etc., on n'a pas eu l'occasion d'en faire beaucoup. Là, avec Vincent, on va se retrouver en juin pour le festival du livre à Metz. Donc, c'est le week-end du 18 juin, je crois. Et on s'est retrouvé précédemment à Nancy où là, c'était assez chouette parce qu'on a, enfin, en tout cas pour moi, c'était la première dédicace qu'on faisait ensemble de ce bouquin. Et il y avait quelques personnes qui étaient venues de Longwy, voilà, pour se faire signer le livre, etc. Donc on avait un peu l'impression de rencontrer des personnages qui sortaient du bouquin, quoi. Voilà.
Okay. Très bien, très bien. Ben nous, on ne manquera pas de vous solliciter pour si jamais un petit peu plus tard, quand justement, eh bien, cette effervescence sera un petit peu retombée. Mais peut-être qu'elle ne retombe plus. Peut-être qu'elle ne retombe plus jamais. Pierre, est-ce que tu as une question pour terminer?
Une toute petite. C'est vrai que Lorraine Cœur d'Acier, c'est un très beau nom. Ça fait penser aux mains d'or de Bernard Lavilliers, un peu dans le même sujet. Tout à l'heure, vous m'avez dirigé vers les archives. Est-ce qu'elles sont, en ligne? Est-ce qu'on peut les écouter, ces archives?
Oui, alors il y a le film de Serre et Poirier qui avait été tourné à l'époque de LCA qui est assez facilement trouvable, je crois, sur Internet, qui doit s'appeler Lorraine Cœur d'Acier, tout simplement. Donc ça c'est une chose. Alors on voit pas mal de moments de la radio qu'on a remis, enfin qu'on a aussi utilisé ou dont on s'est inspiré dans l'album. Et puis ensuite il y a le CGT qui avait fait un peu amende honorable il y a une dizaine d'années en publiant un coffret qui s'appelle Un morceau de chiffon rouge et qui retrace un petit peu cette histoire-là avec des extraits de la radio, etc. Sinon, les archives de Lorraine Cœur d'Acier sont toutes conservées aux archives de la Seine-Saint-Denis. Voilà.
Très bien.
D'accord. Merci. Ben,
merci beaucoup. On le rappelle, Lorraine Cœur d'Acier, histoire d'une radio pirate libre et populaire 1979-1981, aux éditions Futuropolis, et les dessins de Vincent Baillet avec le récit de Tristan Thil. Je vous remercie beaucoup d'avoir pris tout ce temps pour répondre à nos questions. Et puis, je vous souhaite plein succès pour la suite des interviews que vous allez mener.
Le CLS, le cercle de lecture sociale. À court, prendre la parole et scander les archives combattantes. Info et canal Telegram sur www.libradio.org.